Bon réveil à tous, voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Plus de 2 milliards de dollars de produits français seront-ils taxés à 100% en arrivant aux États-Unis à partir de l'année prochaine ? L'administration Trump menace et tente un peu plus les relations franco-américaines, vous l'entendrez.
Une tension qui sera sans doute visible lors du sommet de l'OTAN. Il s'ouvre aujourd'hui à Londres. Nous nous questionnerons sur l'avenir de l'Alliance Atlantique.
Dans cette édition, vous comprendrez pourquoi certaines régions lanceront des appels d'offres à partir d'aujourd'hui pour privatiser des lignes ferroviaires régionales en France. Un mécontentement de plus chez les cheminots.
Et puis nous irons aussi au Venezuela où des soupçons de corruption pèsent sur des députés d'opposition. Un comble pour leur chef de file, Juan Guaido.
Dans un quart d'heure, nous retrouverons Frédéric Saïs pour le billet politique. Il sera consacré ce matin aux journalistes devenus communicants. La rencontre sera scrutée. Chaque regard, chaque mot, chaque intonation sera enregistré. Ce mardi, en effet, Emmanuel Macron rencontrera son homologue américain Donald Trump en marge du sommet de l'OTAN à Londres. Une entrevue prévue de longue date qui risque d'être houleuse après les annonces faites hier soir. L'administration Trump menace en effet de surtaxer certains produits français. Il s'agirait de droits de douane additionnels allant jusqu'à 100%. Une réponse en fait à l'instauration en France d'une taxe sur les géants du numérique, la taxe dite GAFA, qui touche principalement des entreprises américaines. Plus de 2 milliards de dollars de produits français pourraient donc être concernés, Grégory Phillips.
Comme à chaque fois, la liste établie par le représentant américain au commerce ressemble à un inventaire à la Prévert. Dans le collimateur de l'administration Trump, cette fois, 63 produits fabriqués en France. Ça va du beurre au roquefort, en passant par les vins pétillants, les yaourts, le maquillage, les sacs à main, les savons ou encore la porcelaine. Pour Robert Lighthizer, le projet français de taxer à 3% de leur chiffre d'affaires réalisé en France, les Google, Apple, Facebook et autres Amazon vise de manière absolument discriminatoire les entreprises américaines du numérique et il convient donc de riposter en taxant certains produits made in France au moment de leur arrivée sur le sol américain, certains jusqu'à 100%. Pour l'heure, on en est encore qu'aux menaces, mais une application de ces tarifs à partir de la mi-janvier compliquerait grandement la tâche des entreprises françaises concernées qui exportaient jusqu'ici leurs produits vers les États-Unis. De leur côté, les géants américains du numérique applaudissent cette décision de la Maison-Blanche qui, selon eux, vient défendre les intérêts de ces multinationales de l'Internet.
Et en attendant une éventuelle réponse de la France ou une éventuelle négociation, Washington envisage aussi des mesures identiques contre l'Autriche, contre l'Italie et la Turquie. Preuve donc que le sommet de l'OTAN qui débute à Londres aujourd'hui sera tendu. Donald Trump y est arrivé hier soir. Les questions d'alliance seront au cœur de cette réunion des chefs d'État et de gouvernement, au cœur des tensions surtout entre États-Unis et France, nous l'avons compris. Selon Emmanuel Macron, l'OTAN doit se réveiller sous peine de disparaître. Il appelle les Européens à se mobiliser pour peser face aux États-Unis. Sans aller jusqu'à disparaître, cette alliance atlantique pourrait en tout cas se déliter, selon le politologue Bruno Tertrais. Il est directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique.
La mort de l'OTAN, on l'a prévu, envisagé, scénarisé, annoncé surtout de multiples fois depuis 1949. Encore une fois, c'est une organisation solide. Ce qu'on ne peut pas exclure, en revanche, ce qui est même malheureusement un scénario à prendre en compte, c'est le scénario d'un Trump réélu qui se retirerait, qui déciderait du jour au lendemain, par un tweet, pourquoi pas, de se retirer de l'OTAN. Alors, ça poserait des problèmes juridiques, peut-être que le Congrès ne le laisserait pas faire, mais le simple fait qu'un président américain dise « je souhaite me retirer de l'OTAN », ça serait un coup extrêmement fort et peut-être fatal pour cette organisation. Et c'est là, encore une fois, que Macron a raison de dire « il faut que nous, Européens, on soit moins dépendants de la garantie américaine, il faut qu'on prenne des dispositions ». Simplement, c'est pas facile, parce que si nous construisons un système de défense en dehors de l'OTAN, les Américains disent vous voyez, vous n'avez plus besoin de nous. Et par ailleurs, nos partenaires européens ne nous suivraient pas.
Un des propos recueillis par Nathalie Hernandez à l'aube de ce sommet de l'OTAN à Londres. Voilà une nouvelle qui pourrait attiser un peu plus la colère des cheminots à 2 jours de la mobilisation du 5 décembre contre la réforme des retraites. À partir d'aujourd'hui, les régions pourront lancer des appels d'offres pour ouvrir à la concurrence certaines de leurs lignes ferroviaires régionales, comprenez les TER. Quelques régions se sont déjà montrées intéressées, les Hauts-de-France, le Grand Est, la région PACA également, qui va ouvrir à la concurrence un tiers de son réseau. Philippe Tabarot est le vice-président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en charge des transports. Il nous explique l'objectif de cette ouverture à la concurrence.
On attend vraiment avant tout une amélioration de la qualité du service. Vous savez, dans l'année 2016, on avait 15% de nos TER quotidiennement qui n'arrivaient pas à l'heure et près de 10% qui étaient annulés. Donc des chiffres qui étaient calamiteux. La situation est bien meilleure, c'est amélioré aujourd'hui. On veut encore l'améliorer. Aujourd'hui, il y a des secteurs où les chiffres ne sont pas bons. Il faut qu'on ait une homogénéité au niveau de la région. Et dès que la qualité, la fiabilité de l'opérateur s'améliore, les usagers, voire les abonnés, sont au rendez-vous. Et bien sûr, comme nous sommes garants de l'argent public, comme le dit dans ces contrôle régulier sur cette partie, soit les chambres régionales des comptes, soit les cours des comptes. Il nous faut également avoir le meilleur service au moindre coût. Ça se fait dans d'autres pays européens. Le coût du train kilomètre en France et particulièrement dans notre région est important. Et c'est vrai que l'aspect financier doit également être pris en compte.
La SNCF a déjà indiqué qu'elle participerait à tous les appels d'offres pour une ouverture à la concurrence prévue d'ici 3 ans. Le réseau ferroviaire encore, qui sera a priori lourdement touché par la grève qui s'annonce après-demain contre la réforme des retraites. Faute d'engagement de la part du gouvernement, la CFDT Cheminots appelle d'ailleurs ses militants à rejoindre ce mouvement reconductible à partir de jeudi. Et dans le cortège ce jour-là, des jeunes seront également présents pour défendre leur future retraite. En décalant la mise en place de la réforme, ils pourraient en effet être les premiers concernés. Annabelle Grelier a rencontré Agathe, 27 ans, du collectif Nos Retraites. Agathe ira manifester jeudi pour ne pas être oubliée.
Là, on nous parle d'une réforme, on nous dit elle va être indolore, tout va bien se passer, mais on nous dit, mais vu qu'on est un petit peu inquiet, peut-être qu'en fait on va juste la réserver pour les gens qui sont nés dans les années 2000. Mais ça veut dire quoi? C'est scandaleux, c'est vraiment une clause de après moi le déluge, quoi. Donc mes enfants, on verra. C'est insupportable, effectivement, quand on est jeune. On a l'impression qu'on n'a aucun espoir permis. On galère à trouver un emploi, on galère à faire respecter ses qualifications dans son travail, à avoir un bon salaire, on galère à trouver un logement. Et ensuite, en plus, on aura des difficultés à avoir une retraite. On nous promet un système de retraite qui sera plus injuste, qui ne maintiendra pas notre niveau de vie au moment du passage à la retraite. La retraite, c'est dans la vie de mes parents, donc c'est dans ma vie, ça me concerne. Les voir être fatigués au travail, ça m'inquiète, ça me concerne. Je ne veux pas que leur retraite soit retardée, ce n'est pas possible. La retraite, c'est aussi mes grands-parents. Je les ai vus pouvoir vivre un moment de leur vie où ils étaient en bonne santé, où ils ont pu voir la famille, s'occuper un peu de moi, de mes frères et sœurs. Ça a un sens pour nous. C'est ça la retraite. Et aujourd'hui, le gouvernement essaie de nous faire croire que c'est une question technique. On parle de points, on parle d'âge d'équilibre. Non, c'est le rapport aux gens, c'est le rapport à la solidarité. C'est cet espoir-là que porte la jeunesse et je pense que c'est la raison pour laquelle les jeunes vont aussi se mobiliser sur cette question de la réforme des retraites.
Des propos recueillis par Annabelle Grelier. J'ajoute que ce mouvement de colère va bien au-delà de la protestation contre la réforme des retraites. Hier soir, les pompiers ont installé un campement à Paris, place de la République. Ils dénoncent un manque d'effectifs et de reconnaissance et resteront sur place jusqu'à jeudi. Ce matin, par ailleurs, les agriculteurs en colère seront, eux, reçus par le Premier ministre. Nous connaîtrons dans moins d'une heure le classement des systèmes éducatifs de 79 pays, des systèmes évalués par l'OCDE, et cela donne un aperçu global du niveau des élèves pays par pays. L'année dernière, la France était dans la moyenne, loin derrière quelques voisins d'Europe du Nord, loin, très loin derrière surtout certains pays d'Asie et notamment Singapour. Cette cité-État applique une méthode scientifique en mathématiques, une méthode bien spécifique. À Paris, l'école primaire Sainte-Élisabeth de Plaisance fait de même. C'est un reportage ce matin d'Hakim Kasmi.
Aujourd'hui, on allait étudier les nombres de 11 à 16.
Dans cette classe de CP, pour apprendre à compter, les élèves n'utilisent pas que des manuels, mais aussi des jetons et des cubes, une méthode ludique dite de Singapour qui permet de mieux comprendre, selon Laurence Delaprelle, leur professeur.
On va manipuler avec des jetons pour la construction du nombre au-delà de 10. Ils vont remplir des boîtes de 10 et puis ils vont construire le nombre avec 11, 12, 13, etc. jusqu'à 16. Parce que ce sont des nombres qui sont particuliers dans la langue française. Puisqu'on n'entend pas 17, à partir de 17, on va avoir 10 et 7. Mais 11, 12, 13, 14, 15 et 16 sont des nombres difficiles pour les enfants.
Une pédagogie qu'apprécient les élèves comme Alice.
Ça m'aide à reconnaître les nombres dans les boîtes de 10. Si on mettait rien, on ne saurait pas où sont les jetons, parce que c'est visible. Si on mettait rien, ça serait invisible.
Mais au-delà des mathématiques, les techniques de la méthode de Singapour peuvent aussi s'appliquer pour d'autres matières comme le français et l'histoire-géographie, estime Monica Nigoy, formatrice.
Pour beaucoup d'élèves, l'histoire, c'est une suite de dates que je dois mémoriser. Mais si l'histoire devient une étude de régularité, de choses qui se répètent, de grands mouvements, comme les grandes idées en mathématiques, alors on l'enseigne avec plus de sens et les élèves prennent du plaisir et on développe leur curiosité et leur avidité de découvrir.
Actuellement, le ministère plancherait sur cette méthode pour la généraliser. Il espère ainsi réduire les inégalités chez les élèves en difficulté. Des élèves en difficulté qui représentaient 20% des effectifs au dernier classement PISA.
Hakim Kasmi, que nous retrouverons à 9h pour analyser les résultats de cette enquête de l'OCDE sur les systèmes éducatifs.
Et avant cela, à 8h11 sur France Culture, nous poursuivons votre journal, Clara Lecoq. Réal, au Venezuela, des députés de l'opposition sont soupçonnés de corruption.
Et c'est évidemment un coup dur pour leur chef de file, Juan Guaido, qui se bat justement contre le gouvernement Maduro et ce type de scandale. Cette fois, c'est pourtant dans ses rangs que la corruption s'est infiltrée, Benjamin Delisle.
Selon le site d'investigation Armando.info, 9 députés proches de Juan Guaido ont tenté d'user de leur influence en Colombie et aux États-Unis pour défendre un chef d'entreprise colombien accusé de blanchiment d'argent. Le plus gênant, c'est que cet entrepreneur, Carlos Lizcano, est lié au programme CLAP, un programme du gouvernement de Nicolas Maduro pour fournir de la nourriture subventionnée aux plus nécessiteux. Avec 2 autres entrepreneurs colombiens, Carlos Lizcano aurait surfacturé les importations de denrées destinées à ce programme. La justice américaine, qui a sanctionné les 3 acolytes, les accuse d'avoir ensuite blanchi l'argent surfacturé. C'est là qu'interviennent les députés d'opposition. Ils auraient demandé à la justice américaine et à la justice colombienne d'être, je cite, « indulgentes ». En échange, Carlos Lizcano les aurait grassement remerciés via un système complexe de fausses factures, notamment pour détourner politiques en Europe qui n'ont jamais eu lieu. Un scandale qui fait tache pour l'opposition qui ne cesse de dénoncer la corruption supposée du gouvernement de Nicolas Maduro. Les députés ont été suspendus par leur parti et Juan Guaido a annoncé l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire.
Je ne permettrai pas que la corruption mette en péril des années de travail et de sacrifices de parlementaires et de citoyens engagés pour le changement et pour la lutte.
Seulement le mal est fait, après des mois de manifestations sans succès, les Vénézuéliens ne croient plus en l'opposition dirigée par Juan Guaido et ce scandale ne devrait pas aider à les réconcilier.
C'était Benjamin Delisle, correspondant de RFI à Caracas pour France Culture. Comme au Venezuela, la crise sociale chilienne entraîne un effondrement de l'activité économique, moins 3,4% disait hier la Banque centrale. Dans la foulée, le gouvernement chilien a proposé un plan de 5,5 milliards de dollars pour l'année 2020. Le Chili, où devait avoir lieu cette année la COP25 sur le climat. Face à la crise sociale, elle a finalement lieu cette COP25 en Espagne, à Madrid. Ce mardi, les experts du GIEC vont présenter leurs travaux sur les océans, car ils sont en danger, Véronique Roberotte.
Un monde marin plus chaud, jusque dans ses abysses, plus acide, de plus en plus limité en oxygène et dont le niveau monte sous l'effet de la fonte des calottes glaciaires. Le dernier rapport du GIEC sur les océans dresse le diagnostic implacable d'une planète en surchauffe. Les océans, qui représentent 71% de la surface de la Terre, ont été jusqu'à présent une aide précieuse pour limiter le réchauffement sur Terre, mais plus pour très longtemps vu leur état. Valérie Masson-Delmotte, climatologue.
On a un réchauffement modéré, finalement seulement 1 degré à la surface des continents et des océans, parce que le plus gros de la chaleur est rentré dans les océans. On ne peut pas revenir en arrière, parce que cette chaleur va être redonnée à l'atmosphère dans les siècles qui vont venir. Ensuite, donc, l'océan a absorbé environ 20 à 30% de nos rejets de dioxyde de carbone. Mais ça se fait aussi au détriment des habitats pour les espèces marines, du fait de l'acidification de l'océan. Voilà, donc l'océan il joue un rôle essentiel dans le fonctionnement du climat. Il a un rôle d'accumulateur, on peut le dire. Mais nos perturbations sur le climat, elles perturbent profondément l'état de l'océan. Les négociations sur le climat, je pense, elles vont être éclairées par ce constat-là. L'inadéquation entre l'action aujourd'hui et puis les objectifs que les gouvernements se sont eux-mêmes fixés, hein, qui est de contenir le réchauffement largement en dessous de 2 degrés.
Là aussi, pas de secret, la meilleure façon de protéger les océans est de limiter la température de la planète à 1,5 degré d'ici la fin du siècle.
Sur le sud-est de la France, les intempéries du week-end ont été meurtrières. 6 personnes sont mortes au total. Ce matin, une femme de 61 ans est toujours portée disparue. Et la vigilance orange sur le sud-est est maintenant levée alors que débute une journée sans pluie globalement. Une journée sèche mais brumeuse ce matin. Le soleil va briller dans l'ensemble sur ce pays, sur la France dans l'après-midi. Le soleil brillera et comptez d'ici là un petit degré à Besançon et à Lille, 2 degrés à Lyon et Bordeaux, 3 degrés ce matin à Rennes et Paris, 12 degrés à Nice.
Merci Clara Lecoq-Réal.